Et du coup, Drew, alors, c'est les jeux d'Essonne, là, vu que t'en as ramené quand même quelques-uns. T'es arrivé au bout?
Ouais, mais en fait, c'est pas les jeux d'Essen auxquels on joue, c'est les jeux qu'on a repérés à Essen et qu'on a achetés après parce qu'ils sont arrivés en France, en fait. Donc là, on est sur du rattrapage d'Essen, on va dire.
Salut Drew, salut Flavien. Et toi, c'est Cyrus, Essen, c'est fini? Ou toujours des petits rattrapages aussi?
Bah non non Essen, moi j'avais pas acheté grand chose, mais en revanche je cherche des jeux pour enfants là en ce moment, je galère un peu. Je suis allé au jeu du Stan.
Ah, t'es allé au jeu du Stan? Ah, c'est vrai qu'il y a ça, moi j'ai pas pu y aller. Du coup, t'as joué à quoi?
Eh bien, au jeu du stade, on a, bah, en fait, non seulement j'y allais pour jouer à des jeux pour enfants, mais en plus, j'avais pas beaucoup de partenaires adultes, donc du coup, on a effectivement scié pas mal de jeux pour enfants. Ouais, parce qu'en ce moment, je suis un peu à sec, j'avoue, pour jouer hors nez, parce que c'est la chronique, on essaie de faire plutôt des recommandations, quoi.
Ouais, des trucs
Et
bien, quoi.
bah, de temps en temps, ouais, c'est ça, d'essayer de chercher des jeux qui sont bien, quoi. Et bah, des fois, t'as des périodes où il n'y en a pas, quoi.
On peut pas avoir la colline de Fofolla tous les ans et tous les mois, hein.
Ouais, c'est ça. Quand tu sors après de jeux comme ça, c'est un peu compliqué. Ouais.
Ah, c'est
Du coup,
dommage,
bref.
juste avant Noël, de pas avoir de bons jeux enfants quand même.
Et du coup, t'as trouvé ton bonheur au jeu du Stan, ouais?
Et ben, j'ai joué à Fluffy Valley. C'était vraiment pas ouf, quoi.
Ah, donc ce sera pas un joueur né de ta part finalement.
Non, non, non. Bah, en fait, le truc, c'est que. Alors, c'est le dernier jeu sorti chez Loki. Enfin, je crois que c'est le dernier. Il a annoncé pour 6 ans. Et déjà, le niveau de complexité, enfin, voilà, mais laisse tomber, quoi. Enfin, je comprends pas le rapport d'âge, en fait, qui est indiqué dessus. Loki nous avait déjà fait le coup avec, c'était quoi? Monsieur Carousel? Oh, infernal. Monsieur Carousel, tu lis les règles, mais même en tant qu'adulte, tu comprends pas, quoi. En fait, donc, dans Fluffy Valley, bon, le thème, c'est des chiens de prairie qui essaient de faire leur réserve pour l'hiver. Donc, le but, c'est un jeu coopératif. Tu vas bah, essayer de récupérer un maximum de. Alors, je sais quoi, c'est du foin, il y a des baies et puis du miel que tu vas stocker. Il y a différents moyens d'obtenir ces différentes ressources, quoi. Bah, globalement, je crois que les baies, tu peux en stocker beaucoup, le foin, tu peux en stocker moyennement et le miel, pas beaucoup. Mais c'est aussi en rapport avec la facilité que tu as à les récupérer. Et à la fin, tu vas t'évaluer sur une grille de. Voilà, j'ai plus les quantités, mais en gros, il y a peut-être un max de 30 trucs que tu peux récupérer, tout à la même valeur à la fin, même si il y a des trucs qui sont potentiellement plus compliqués finalement à récupérer. Bah, tu regardes juste combien tu as de jetons à la fin, et si tu en as entre temps et temps, bah, t'es pas bien, entre temps et temps, t'es un peu mieux, etc. etc. quoi, tu vois le
Ouais,
principe.
c'est bizarre qu'il n'y ait pas effectivement une valeur indexée sur la difficulté, enfin sur la rareté de la ressource, mais bon, c'était peut-être trop complexe pour les 6 ans, c'est déjà trop dur pour des 6 ans, on va enlever ça.
Ouais, peut-être. Et du coup, là-dedans, c'est un espèce de jeu de pose d'ouvrier en fait, mais toi coop. Donc du coup, il y a quand même ce côté de blocage dans la pose d'ouvrier. Donc c'est presque une espèce de jeu d'initiation comme ça, dans lequel tu vas t'auto-bloquer potentiellement, parce que c'est comme si tes pions se déplaçaient comme dans un taquin, quoi, en fait. C'est-à-dire que tes pions, ils sont tes chiens de prairie. Tu vas en avoir trois. Ils vont être positionnés dans des trous. Donc t'as vraiment des chiens de prairie en plastique là, qui sont vraiment mignons. Hein. Enfin le jeu il est hyper catchy. Hein. Ça c'est plutôt bien trouvé pour les enfants. Évidemment du coup c'est made in China. Hein. On va pas se mentir. Du coup les chiens de prairie, tu vas les quand tu les envoies quelque part, tu les envoies dans un trou et du coup tu les fous tête en bas. Tu vois,
D'accord.
et donc ils ont leur fesse qui ressort. Donc, ça c'est en gros ça veut dire que celui-là tu l'as utilisé. Et sachant que quand il part, il est déjà dans un trou. Donc en gros, tu peux pas te mettre dans les trous que tu es en train d'occuper, que ce soit de façon active ou passive finalement. Et donc tu joues comme ça tes trois coups. Une fois que tes trois chiens de prairie sont donc la tête en bas, bah, tu as fait tes trois actions, c'est la fin du tour, et puis tu révèles une carte. Voilà. Tu révèles une carte qui va faire un effet. Voilà déjà, premier problème. Les cartes. Il y en a, je sais pas, il y a au moins 10 ou 12 effets différents. Parce qu'il y a aussi des cartes avec d'autres trucs, tu vois, qui sont quasiment des effets uniques. L'iconographie, elle t'aide pas, hein. Faut pas trop rêver. Il faut avoir fait 10 parties pour, je pense, maîtriser ou déjà enfin, on va dire une bonne moitié des cartes, je pense. Pour les maîtriser toutes, il faut sûrement avoir fait 20 parties. Donc, il faut que tu ailles dans le manuel pour lire ce que ça fait. Et donc, quand t'as 6 ans, ça marche pas déjà.
C'est ça, ouais, bah c'est ouais, compliqué, ouais.
Donc ça c'est raté. En plus, je trouve les effets hyper punitifs, quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs. Enfin, pourquoi? Enfin, je veux dire, pourquoi tu retournes une carte et boum, tu te fais prendre toutes les réserves que t'as pas encore stockées, toi, par exemple.
Ça, c'est un peu thématisé, ouais, les prises des réserves, c'est des bestioles qui viennent te les piquer ou un truc comme ça, j'imagine.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Non, sur le thème, tout ça, c'est plus franchement, enfin, ouais, c'est plutôt aussi, bien trouvé, c'est mignon, la mise en scène, voilà, elle est chouette. Mais en fait, je trouve ça trop punitif et pas du tout adapté pour les enfants de 6 ans, quoi. C'est, ouais. Ça marche pas. Et alors, le dernier truc, c'est que. En fait, on a joué donc avec mes deux petits loups. Et je les ai vus, mais on s'est regardé avec ma femme, ils avaient l'air de se faire chier, quoi. Mais je te jure. Ouais. Et franchement, ça arrive jamais, quoi. Et là, je sais pas, c'était pas l'heure de la digestion, rien, mais ils avaient pas envie de jouer, quoi. Ça les a pas du tout palpités, quoi. Enfin, c'était pas palpitant pour eux, quoi.
Ouais, alors que les enfants sont en général au public et que du coup, même si c'est bien de voir si ça marche auprès d'eux, toi, en tant qu'adulte, t'arrives à avoir un recul sur ok, mais ça marche auprès d'eux, mais tout marche auprès d'eux, de toute façon. Donc, c'est pas forcément le critère que moi je vais retenir pour dire si c'est un bon jeu.
C'est...
ou pas.
Et c'est eux qui avaient été à la table? C'est eux qui ont choisi le jeu pour le visuel ou c'est toi qui étais
Non, bah, c'est moi qui. Enfin, parce qu'en plus, dans les festivals, mon fils, maintenant, il est relativement grand, mais la petite, elle est encore un peu basse pour voir vraiment ce qu'il y a dans le festival, les tables et tout. Puis, il n'y a pas 36 000 jeux non plus. Donc, non, c'est moi qui. Ça vous dit de jouer à ça, puis bah voilà. Là. Enfin, honnêtement, de prime abord, évidemment, ça va, ça marche quoi. Tu sais, il y a les petits chiens de prairie qui te retournent et tout.
Je t'avoue que moi, sous l'image que j'ai là, je regarde sur VGG, et en fait, je m'imagine, tu sais, il y a un chien qui a la queue en l'air, quoi, et les autres. Et en fait, la façon dont c'est positionné, moi, je m'imagine le chien, tu sais, qui passe sous la terre et que c'est le même chien en fait. Donc on voit la queue et la tête. Et
oui,
je trouve ça un peu effrayant en fait.
Non, les trous ils sont vachement éloignés les uns des autres en plus. Non. Non mais bon voilà, ouais. Non, ça a pas du tout marché chez moi et je comprends vraiment pas qu'on sorte un truc comme ça quoi. Là c'est vraiment le Monsieur Carousel bis là, je sais pas ce qu'ils ont foutu là chez Yellow Akayoki Loki, pardon.
Ouais, c'est dommage parce que c'est vrai que l'idée d'un jeu de gestion de poste d'ouvrier pour les enfants, tu vois, pourquoi pas dans l'idée. Après, c'est des fois des bonnes idées, mais qui sont mal réalisées, quoi.
C'est Théo Rivière et Maxime Rambourg qui sont derrière.
Ouais, ouais.
Et tu vois, enfin, Théo Rivière, moi je trouve qu'il est bien sur les jeux pour enfants.
Ouais, ouais, la maison des souris.
Ouais, moi je trouve que c'est. Enfin, moi je trouve que c'est là-dessus qu'il fournit les meilleurs game design, je trouve.
Ouais, moi aussi, ouais. Clairement.
Mais là, la mise en scène, ouais, voilà. Le reste, ouais, franchement, ils sont, ils sont trompés de cible, j'en sais rien. Ou ils ont, c'est mal calibré. Il aurait fallu faire un truc plus simple, finalement.
Ouais.
Avec des effets peut-être moins tordus.
Et penser plus effectivement au public de 6 ans, quoi, pour un peu.
Ouais, puis moins punitif, franchement. Franchement, là, il y avait moyen. S'ils avaient été dedans, les gosses, je pense qu'ils pleuraient, là. Ils se sont fait piquer tout leur truc. Heureusement qu'ils n'étaient pas dedans, en fait.
Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, bon, après, on peut y jouer tout seul, hein. Peut-être que Zéphiral nous fera un soliloque dessus, qui sait.
Bon, et toi, Flavien, t'as joué à un truc intéressant, là, dernièrement?
Bah, intéressant, je dirais pas ça, mais en tout cas, j'ai joué à un truc et qui est un jeu solo aussi. Enfin, aussi. Fluffy Valley, c'était pas un jeu solo, mais voilà. Tu sais, moi, je collectionne les Button Shy, là, les Matago, qui sont eux aussi fabriqués en Chine, alors que c'est 18 cartes.
Voilà. Non, mais c'est à cause de la pochette plastique.
Ouais, ah oui, ça doit être ça. Et je trouve que dans la gamme, alors, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs très moyens, voire mauvais, et il y a quelques perles. Enfin, perle, c'est un grand mot, mais trucs qui s'en sortent. Et je trouve que la gamme solo est plutôt dans les bons jeux en général. J'avais bien aimé L'île des Prédateurs, et notamment cet été Insurmontable qui est sorti, que je trouve très solide. Tout ça, c'est des jeux de Scott Helms, qui est un auteur que j'aime bien. Et là, de coup sur coup, j'ai joué à deux jeux solo qui sont parmi les pires de la gamme. Alors, il y a Pentaquark, dont je vais pas parler parce que c'est vraiment catastrophique. Tu sais, le truc sur la physique quantique, et c'est affreux. C'est nul. Et j'ai joué aussi à Convoyeur très spatial.
Alors, Convoyeur très spatial.
Ouais, voilà, j'imagine que c'est un jeu de mots pour spécial.
Ah.
C'est vraiment nul, comme jeu de mots. c'est comme toujours adapté d'un. Enfin, pas comme toujours. Maintenant, Matago font aussi des trucs qui sont pas adaptés des Button Shy. Là, c'est le cas.
Et du coup, la version anglaise, en fait, c'est Space Shipped, avec le shipped qui joue sur le fait d'expédier, en fait.
Ah. Ouais, voilà. Bon, c'est pas non plus le truc le plus original, mais ça sonne mieux que Convoyeur très spatial, quoi.
Mais t'es en train de nous dire que c'est le mieux. C'est ce qu'il y a de mieux dans le jeu, c'est ça?
Quoi, le jeu de mots? Non, peut-être pas. Non, c'est quand même un peu moins pire que Pentaquark. Notamment, c'est Lucas Gentry qui a l'air d'être super sympa, et en fait, enfin, super sympa. pas. En tout cas, sur les forums de BGG, parce qu'il y a quand même plein de questions sur un jeu qui dure à peu près 20 minutes, hein, et qui est, voilà, qui est annoncé pour 8 ans et plus, quoi. Là aussi, peut-être un petit problème de public. Et mais en tout cas, il est vachement à l'écoute et tout. Ça, c'est plutôt cool. Et il y a une promesse dedans. C'est moi, j'aime bien dans les Button Shy. Tu sais, il y a ça dans les rizières du Cambodge. Il y a ça aussi dans Megalopolis et tout. Le côté multi-usage des cartes, parce qu'il y a que 18 cartes. Et du coup, comment on fait pour faire un game design avec
ouais,
juste
18 cartes ? Quand il t'en manque, il faut trouver une solution.
Ouais, c'est ça. Et donc là, comme dans ces jeux-là, t'as...
Il est bien resté sur 18 cartes parce qu'il y en a qui trichent. Hein. Il y a des Button Shy qui sont plus gros. En tout cas, il y a des Matago qui sont plus gros. Mais...
Ouais, c'est pas les Button Shy, ouais. C'est les Matago. Vraiment, Pantémor ou Totemi, par exemple. Totemic, c'est des plus que 18, mais c'est des trucs spécifiques de Matago. Là, non, c'est bien les 18 cartes. Et du coup, pour contourner ça, en fait, il a un truc au recto, un truc au verso. Et sur le recto, il y a deux éléments. Donc voilà, elles sont à la fois du côté du recto séparées de manière horizontale. Et puis, il y a le verso qui sert encore à autre chose. Alors l'idée est plutôt séduisante. Bon, le thème c'est voilà, on doit récupérer deux comment ils appellent ça, des cristaux spécifiques, je sais plus comment c'est, des exocristaux ou trucs comme ça. Bref, il faut en récupérer deux pour gagner. Après, il y a plein de manières de perdre. Il y a que notre vaisseau soit détruit, ce qui arrive relativement rarement. C'est tu sais, il y a plein de petites épées de Damoclès, mais la destruction du vaisseau c'est quand même relativement rare. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais la manière la plus courante, c'est entre guillemets, t'as un adversaire, un alien, qui quand des exocristaux ou trucs cristaux quittent la ligne des ressources, en gros c'est un timer quoi, et tu le diminues petit à petit. Quand t'arrives, pareil, l'alien il a un recto verso, quand tu dois passer du recto verso, il y a un cristal qui dégage et qui va faire l'alien, et quand c'est la deuxième fois, t'as perdu. En fait, si tu perds deux exocristaux, tu as perdu. Mais ça doit pas être des exocristaux, je sais plus ce que c'est. Les cristaux, on va les appeler comme
ça. Xénocristaux, non ?
Xénocristaux, peut-être, ouais, c'est ça, xéno comme les xéno.
Parce que je suis en train de regarder une image sur la version américaine,
ouais, ça doit être ça.
Xénocristal.
Et donc, ces xénocristaux, ça fait partie de certaines ressources, même si c'est pas vraiment une ressource en termes de texte et d'effet, mais en tout cas, voilà, c'est la moitié de carte où il y a plusieurs ressources qui vont avoir différentes valeurs qui vont dépendre d'une valeur de marché qui va changer à chaque tour. Donc sur le recto, tu as ces ressources-là que tu vas exposer en ligne pour un certain nombre de cartes, et en dessous, tu as des équipements du vaisseau qui vont te permettre, c'est des améliorations que tu vas pouvoir acheter pour améliorer ton vaisseau, pour changer de vaisseau, pour en prendre un qui peut récupérer plus de ressources, parce que tu veux deux xénocristaux, mais t'as pas une place illimitée, donc en fait, c'est bien d'augmenter son truc. Il y a aussi des petits pouvoirs avec certains membres d'équipage ou avec certaines améliorations. Tout ça, c'est plutôt cool, tu vois. Enfin, il y a un petit côté un peu presque roleplay qui est assez sympa. Et donc le verso des cartes, qui est le plus important en fait, c'est tu vas en avoir trois et ça va désigner trois phases du tour qui va être des rencontres orbitales, des rencontres interplanétaires et une phase de marché. Il y a ce côté où tu vas glisser en fait les cartes, donc la carte qui va être d'abord pour une rencontre orbitale, au tour suivant ça va être la rencontre interplanétaire et au tour suivant ça va être le marché. Et donc t'as une espèce de tapis roulant, tu vois, de sushi qui se fait comme ça et où les améliorations vont devenir les ressources, une ressource va devenir une rencontre orbitale et le marché précédent va devenir une amélioration.
J'ai un peu du mal à suivre, voilà, ça a l'air un peu...
Ouais, le livret de règles est hyper relou.
D'accord, donc, ok. Ouais. Non mais ça a l'air ingénieux, ça a l'air ingénieux quand même en termes d'utilisation du matos, quoi.
C'est 18 cartes, mais en fait t'as un livret de 20 pages à côté pour comprendre.
Franchement... que ce soit celui-là ou Pentacarc, Quark, j'ai été obligé d'aller voir des vidéos à côté, quoi, pour me dire, attends, mais qu'est-ce que ça donne en jeu et en termes de... Parce que tu lis les règles, et c'est vrai que quand tu joues, c'est pas compliqué, mais pour comprendre la dynamique de jeu, c'est insupportable, c'est nul. Et c'est pas que la traduction de Matago, pour le coup, même si, alors évidemment, c'est Matago, donc en fait, sur 18 cartes, il y en a 5 où il y a des fautes. Ou des trucs pas traduits.
Attends, je te rappelle que chaque carte, c'est au moins 4 cartes, quoi.
C'est vrai, non mais c'est assez maboule. Par exemple, il y a un truc, t'as des dégâts de coq et des dégâts de bouclier, ils ont mis chaque au lieu de coq. Donc, normalement, tu vois des dégâts de chaque, alors tu te dis, mais qu'est-ce que c'est en fait?
Qu'est-ce que cette chose?
Et puis, il y a plein de petits effets, notamment lors des rencontres qui sont mal traduit où un « et » est devenu un « ou inversement, et du coup c'est beaucoup plus punitif.
Ouais, c'est pas pareil. Ouais.
On est habitué, on a l'habitude. Hein. Mais, et donc il y a ces trois phases-là, et finalement c'est assez cool, tu vois, de se dire « ah bah là il va y avoir des petits effets, et puis alors ça peut être des effets positifs, négatifs, et puis tu peux prévoir les effets un petit peu d'un tour sur l'autre. » Donc il y a ce côté assez prometteur, moi, que j'aimais bien. Le problème, c'est qu'en fait, ce système, très très vite, c'est très routinier, et ce que tu vas faire en fait, tout le temps, c'est jouer au marchand. C'est-à-dire que tu vas regarder le marché, tu vas te dire « Ah, cette ressource-là, elle coûte tant, donc tu as, je crois, 4 ressources différentes, et dans 2 tours, je vais pouvoir la revendre plus cher. » Et donc, en fait, tu ne fais que ça parce que les xénocristaux, ils coûtent 20 mégacrédits, ce qui est relativement beaucoup, mais en même temps, si tu arrives à acheter 2 pièces détachées à 2 que tu revends à 7 et tout, Ça va, tu vois, le truc c'est de réussir à trouver le bon moment pour acheter des trucs moins chers pour les revendre plus cher. Et ça se résume vraiment à ça, parce qu'en fait, les ressources, donc tu vas les acheter, les améliorations, tu vas aussi les acheter. Pareil, il y a des améliorations qui paraissent presque incontournables, genre une qui te donne 2 méga crédits à chaque tour ou des trucs comme ça, tu vois, qui te permettent de pas être trop soumis au hasard.
Ouais, du coup, tu veux dire qu'en plus, tu vois pas trop de stratégies différentes, quoi, c'est un peu linéaire.
Bah ouais, c'est-à-dire que chaque partie, t'es là et tu te dis, bah en fait, tu mets en place juste le moteur qui te permet d'acheter des trucs moins chers pour les revendre plus chers, quoi. Et c'est vraiment juste ça, quoi. Et du coup, alors il y a quelques cartes, tu vois, qui sont un peu rigolotes où tu te dis, à la fin du tour, tu remélanges tout et tout, et du coup, ça casse un petit peu le côté prévisionnel du marché. Après, les effets sont pas non plus assez fous lors des rencontres. Ça va être genre, ah ben tu rencontres un mécano, il te répare ton vaisseau. Ah ben tu rencontres un tel, il te donne 2 méga crédits. Ah, si tu as de la place.
Ouais, surtout tu dois faire vite le tour en fait, en vrai quoi.
Ouais, clairement.
Il y a quand même peu de contenu au final.
Bah ouais, c'est ça. Et du coup, c'est dommage parce que moi il y avait vraiment cette promesse. Et puis le système, je trouve quand même, c'est un jeu à système, tu vois, à rotation et tout, des trucs qui deviennent d'autres choses. Je trouve ça plutôt malin. Dans les faits, ben, tu te contentes effectivement de faire avec le flux du marché pour essayer d'acheter des trucs moins chers pour les revendre plus chers pour arriver à 20 deux fois et t'as gagné. Ou bien ben, si t'arrives pas à faire ça le temps que les Xenocristaux arrivent à l'alien, ben, t'as perdu. Ouais, ce côté avec des petits effets, des petits modificateurs et tout, finalement tu l'as pas tant que ça. Il y a aussi bon le matos, ça c'est pas très grave parce que c'est button shy en fait, je préfère à la limite qu'ils se contentent de ça. C'est vrai que c'est relou parce que tout tu les fais avec des cartes, tu sais, donc ça glisse facilement, donc pour les ressources, les méga crédits, c'est un peu chiant. Du coup moi j'utilise, vous savez, les trucs de King of Tokyo là qui vont jusqu'à 20.
Ah, des roulettes, quoi.
Ouais, les roulettes, ouais, que ce soit pour les points de vie ou quoi, j'utilise ça. Donc si vous avez un jour envie d'essayer convoyeur très spatial et que vous avez un King of Tokyo New York, eh ben prenez ça.
Ça tient pas dans la pochette, c'est pas bon ça.
Non, ouais. Ça tient pas, mais c'est pratique. Et par contre, il y a pas mal d'extensions qui n'arriveront peut-être pas en français.
Ah ouais.
Hein, et pour le coup, je trouve que...
Pour le contenu, du coup.
Ouais, peut-être qu'avec des extensions, avec d'autres effets, apporte justement un peu de variété, de la diversité de situations, justement un peu moins l'impression que ce soit trop ronronnant. Donc, comme dit, le système est pas mal. Après, voilà, c'est... Tu vois, Scott Helms, c'est aussi un mec qui fait des systèmes, sauf que les systèmes, il arrive à les renouveler par la variété des situations. Je trouve que là, c'est pas trop le cas.
Donc, là, tu disais que c'est pas Scott Helms, c'est ça hein.
Non, c'est Lucas Gentry, c'est un mec qui a fait beaucoup moins de choses. À voir ce que donnent les extensions, je reste curieux, parce que finalement, ouais, je trouve le système assez intéressant, et dans l'absolu, les débuts de partie, tu vois, je prends quand même du plaisir. Mais c'est juste qu'au bout de 3-4 tours, t'es là, tu te dis, bon, je suis vraiment dans ma routine de petit marchand.
Ouais, après, tu lâches à vente, quoi. Tu es le trader.
Ouais, c'est ça, ouais, tu fais le trader, ouais. Et tu fais que ça, quoi, finalement, ça se résume un peu à ça. Tout ce que tu fais, en fait, c'est pour acheter des trucs moins chers, pour les revendre plus chers, quoi. Donc, bon, pas les meilleurs, voilà. J'aime bien les solos de la gamme Matago, là, sauf les deux derniers,
sauf
quoi.
Ces deux-là.
Et Pentaquark, c'est vraiment catastrophique.
Bon, donc, toi, t'as peut-être joué à des trucs un peu plus sympas, hein.
Ah, moi, j'ai joué à un jeu qui avait bien buzzé à Essen, mais qu'on n'avait pas essayé à Essen parce qu'on savait qu'il allait sortir.
Ouais. Est-ce que ça t'a pile là, éclusé?
Non, ça on l'a acheté après, parce qu'on savait qu'il allait sortir prochainement, et c'est donc le Château Blanc. Alors il y a pas mal de monde qui en parlait sur SN, et là il est sorti il y a quelques semaines, peut-être un mois maintenant, et du coup on l'a acheté en français cette fois-ci, et on a pu l'essayer. C'est un jeu d'Israel Senreiro et Chela Santos, c'est eux qui ont fait Cathédrale Rouge ou plus récemment Shinkansen Zero Kai.
Ouais. J'avais la Cathédrale Rouge parce que c'est chez Yellow hein, qu'il est sorti en français.
Ouais. Bah là c'est un Yellow Expert, ouais, effectivement.
Et
aussi,
c'est
ouais.
Tu sais, ces espèces de jeux de gestion qui tiennent dans une boîte réduite.
Ouais, ça c'est bien, ils ont réussi à garder effectivement la même taille que Cathédrale Rouge, c'est une demi-boîte.
Parce que c'est le même auteur, ouais, c'est les mêmes
ouais,
auteurs.
Ouais, c'est les mêmes auteurs, effectivement. Et on retrouve un jeu sur une base de dés, alors c'est pas du tout comme la Cathédrale Rouge. Là, on est sur des dés qui vont servir un peu d'ouvrier. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 couleurs de dés qu'on va lancer en début de chaque manche et on va classer par ordre croissant. On va pouvoir aller choisir dans ces 3 séries de dés n'importe quel dé pour le placer sur des emplacements du plateau en fonction de leur valeur. C'est-à-dire qu'on va avoir des cases numérotées et il va falloir mettre le dé de la bonne valeur. On peut mettre un dé plus petit, mais du coup, il va falloir payer la différence pour pouvoir se placer. Et petite subtilité qu'on ne voit pas souvent, c'est que si je mets un dé plus grand, c'est-à-dire que si la place elle fait 3 et que je mets un dé 5, eh ben, je vais récupérer la différence en argent. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, l'argent, c'est important dans ce jeu-là, notamment pour placer des dés qui n'ont pas la bonne valeur.
Oui, c'est ça, parce que quand tu places en dessous, c'est en argent que tu payes la différence.
C'est en argent. Dans tous les cas, le delta, c'est de l'argent. Et petite subtilité, quand on va prendre des dés dans les dés disponibles, si on prend à chaque fois le plus petit de la série, on a un petit bonus. C'est-à-dire qu'on va activer ce qu'ils appellent la lanterne, qui est en fait un petit moteur chez nous que l'on va faire évoluer au cours du temps. Alors, pas énormément. Hein. En fait, c'est le dos des cartes qui va constituer notre lanterne. C'est-à-dire, quand on va récupérer des cartes sur son plateau, on peut avoir qu'une carte active. Dès qu'on en récupère une suivante, bah, la carte active en cours, elle devient passive, on la retourne. Et au dos de cette carte, il y a le bonus de lanterne. Et quand on ira chercher une lanterne, bah, on activera toutes nos cartes retournées.
Donc, c'est des bonus différents que tu as au dos des cartes?
Ouais, c'est des bonus. Okay. Bah, tu vas retrouver de l'argent, des ressources, des pièces, des points de victoire directement. Sachant que tu as déjà quelques cartes au début, au démarrage du jeu. Donc, tu as déjà une lanterne au démarrage du jeu. C'est déjà intéressant d'aller chercher les petits dés au départ, quitte à payer. Donc, ces dés-là nous permettent après de faire différentes actions sur le plateau principal et notamment d'aller placer nos trois types de personnages qu'on a sur notre plateau individuel. On a des jardiniers, on a des courtisans et on a des guerriers ou des samouraïs, comme on veut. Et donc, des actions de ce plateau vont nous permettre de les placer sur le plateau central. Et quand je les place, quand je les enlève de mon plateau individuel, bah, ça va dégager des cases qui vont aussi là pouvoir me faire un autre petit moteur. Voilà. Et ce petit moteur des cases dégagées par mes bonhommes, là, bah, il faut que je mette des 6 pour pouvoir l'activer. Donc, c'est quand même assez fort parce que les 6, on a envie de les garder pour faire de l'argent en allant sur des cases du plateau principal aussi. Donc, voilà, il y a toujours cette petite ambiguïté où je vais utiliser mes gros dés. Et donc, nos trois ouvriers, nos trois types d'ouvriers, on va pouvoir les envoyer dans différentes zones du plateau central. On a les jardiniers, que là, on va envoyer sur des cartes qui vont représenter des bonus instantanés et des bonus qui se répètent à chaque fin de manche. Donc, on a intérêt à y aller assez tôt pour pouvoir en profiter tout au long de la partie. C'est des cartes qui vont être changées en plus en fonction des parties. Il y a plus de cartes que nécessaire. Ça permet comme ça de varier un petit peu le plaisir, on va dire, entre chaque partie.
La jouabilité.
Ouais, la fameuse. La deuxième catégorie d'ouvriers qu'on va pouvoir mettre, ça va être les courtisans. Donc, eux, les courtisans, on va chercher à les faire évoluer dans le château central. Le château a 3 étages. Et plus je vais les faire monter dans les étages, plus ils vont me rapporter de points à la fin de la partie. Plus ils vont aussi aller chercher des bonus intéressants. Et d'ailleurs, avant même qu'ils entrent dans le château, il faut que je paye pour qu'ils arrivent à la porte du château. Donc là, faut aussi un petit peu d'argent. Et la troisième catégorie, qui sont les guerriers, eux, ils vont aller au camp d'entraînement et nous apporter aussi des bonus instantanés et du scoring de fin, puisque eux, en fonction du camp où ils vont être placés, donc les camps les plus intéressants sont les plus chers, mais ils vont nous donner un multiplicateur. C'est-à-dire que si j'arrive à mettre un guerrier dans le camp le plus haut, le plus cher, il va m'apporter 5 points par courtisan dans le château. Donc on a
Tu multiplies les guerriers par les courtisans, un truc comme ça.
C'est ça. Ouais. Donc on a une petite interaction comme ça où il faut se mettre un peu partout. On ne peut pas justement faire que des guerriers ou que des courtisans ou que des jardiniers. Il faut faire un petit peu partout et comme j'ai pu le dire, ben, y a du scoring un peu partout. C'est une petite salade de points intéressante puisque ben, ça va comme ça nous permettre d'aller chercher un peu partout, grappiller les points. On a aussi une piste de premier joueur qui va aussi amener des points si on monte assez haut. La piste premier joueur, alors on évolue en prenant du moins l'action de Héron. C'est des ronds, des choses comme ça, qui nous font progresser sur cette piste-là. Sachant qu'au bout d'un moment, pour progresser, ben, il faut payer en plus. Alors, il y a tout un tas de ressources. J'ai parlé d'argent tout à l'heure, mais il y a aussi des sceaux, au sens les sceaux de l'empereur. Pas les sceaux le bocal, mais les sceaux, plutôt le tampon, on va dire. On a aussi des perles qu'on va récupérer qui servent à payer les courtisans. On a du métal pour les guerriers. Enfin voilà, donc il y a tout un jeu comme ça de ressources à aller chercher. Sachant que je vous ai parlé de couleurs de dés au début de la partie, donc 3 couleurs. En fonction de la couleur que je prends, si je me mets dans les différentes salles du château qui vont avoir des actions, eh ben, ça ne va pas activer les mêmes actions. Et ces emplacements, eh ben, ils sont limités. Quand on joue à 2, une fois qu'il y a un dé, on ne peut plus y aller. Par contre, quand on joue à 4, Ouais, c'est la poserie. Et par contre, quand on joue à 4, on a le droit de faire un deuxième dé sur le premier. Mais attention, ouais. Parce que du coup, le premier dé qui a été posé devient la valeur qu'il faut poser. Donc si y a un petit malin qui y va en premier en mettant un 6 pour récupérer de l'argent, t'es obligé de mettre un 6 ou alors t'es obligé de raquer pour te mettre là. Ouais. Donc il y a comme ça aussi...
Ah, c'est malin, ça, comme principe du coup...
Ouais, ça change la valeur.
T'as des jeux comme ça de pose d'ouvrier où genre faut te mettre un bonhomme en plus ou des trucs comme ça.
Mais ouais, comme à la Keyflower ou des trucs comme ça, ouais.
Là, ça rejoint un peu plus Marco Polo, les voyages de Marco Polo qui sont un peu dans cette mécanique-là aussi.
Moi, je t'avoue que la Cathédrale Rouge, le seul truc que j'avais aimé dedans, c'était l'utilisation des dés. Je trouve le reste très quelconque. Est-ce que ce qui m'attirait, moi, dans le Château Blanc, là, je l'ai pris aussi, j'ai pas encore eu le temps de jouer, au-delà du côté interaction assez classique qu'il y a dedans, c'est vraiment ce côté assez ramassé qui promet, tu sais, de... Il y a trois manches où tu vas utiliser 3 dés. Et ce côté très ramassé, est-ce que ça... c'est bien? Est-ce que c'est vraiment ramassé? Parce que j'ai l'impression que tu peux quand même faire des combos pour, en fait, faire plus que 9 actions dans la partie, quoi.
Ouais, il y a des combos comme ça. Alors, il faut bien lire les règles, notamment au niveau des jardiniers. Parce que quand tu le poses, tu actives quelque chose et tu peux refaire des actions. Et il y a comme ça, on s'est posé des questions, parce que le jardinier, tu l'actives aussi à chaque fin de manche. Un peu comme un revenu, en gros, mais pas sur la dernière manche. Donc ça, on s'est aussi posé des questions, parce que tu peux avoir un jardinier qui déclenche une autre chose, qui redéclenche un jardinier, et du coup, tu te dis, bah, tiens, je vais le scorer 15 fois. Non, ça ne marche pas. La dernière fois, tu ne l'actives pas. Alors, il est très ramassé. Les gens disaient qu'il était court et rapide, et l'appréciait pour ça. Oui, il est rapide. Alors nous, notre première partie qu'on a fait, on l'a fait à 4. On a quand même mis 1h15. Donc, pas si court que ça.
C'est ce qui est annoncé en même temps. Hein.
Effectivement, quand tu connais le jeu à deux, je pense que tu t'en sors pour une trentaine de minutes, comme on a pu faire.
C'est quand même assez court pour un jeu, entre guillemets, catégorisé expert.
Ouais, alors, c'est expert parce que si tu veux prendre le temps, tu as moyen d'y passer du temps de réflexion quand même. Hein. C'est parce que comme tu as des enchaînements, comme tu vois les dés qui restent, tu peux aussi regarder le blocage que tu veux faire à des adversaires, si je leur mets... Il n'a pas d'argent, donc si je prends ce dé-là, je mets cette valeur-là, il ne pourra pas y aller, donc je me la garde pour plus tard. Donc... Et en plus, la subtilité, c'est que les jardiniers que tu as posés ne s'activent que s'il reste des dés de cette couleur. Donc tu peux aussi aller choper des dés pour que l'action un peu forte sur laquelle mon voisin il a placé un jardinier, ben, il ne l'activera pas parce qu'il n'y aura plus de dés. Donc tu as aussi cette interaction-là qui est intéressante. Après, au niveau matériel, c'est...
Les ponts sont super chiants à faire.
Alors, les ponts, moi, je t'ai dit, première partie, je les ai enlevés. Parce que les cartes de jardinier, elles sont entre les ponts.
Ouais. En plus, ils disent dans les règles, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Ils disent, ne les utilisez pas, c'est là pour décorer.
Ben oui, c'est ça.
Mais ça a l'air de servir un peu à rien, en vrai.
Mais au-delà de servir à rien, c'est même contre-productif. Parce que tes cartes de jardinier, elles sont entre les ponts. Donc, comme tes ponts sont surélevés, tu ne vois pas les cartes qui sont au milieu. Donc, première partie, on a vaqué les ponts, sachant que les emplacements des dés sont dessinés sur le plateau en dessous des ponts. Donc, tu n'as absolument pas besoin. C'est vraiment... Pour faire joli, puis nous, c'est le petit enfant à côté qui joue avec les ponts pendant que nous, on jouait au jeu, du coup. Mais,
ouais, et puis c'est fragile, hein. Franchement, moi, j'ai manqué d'en péter. Hein,
C'était pour faire de la 3D, en fait, sur les tables de démo, quoi.
C'est pour faire un peu quali, parce que quand on voit les ouvriers, ils sont aussi très finement découpés. Il y a des beaux jetons, hein. C'est pas des simples meeples à la Carcassonne, c'est vraiment un peu travaillé. Ils ont vraiment cherché à faire quelque chose de qualitatif.
Avec un jeton premier joueur aussi. Le jeton contour. Là, qui...
Le jeton contour, et puis les...
Une espèce de grand dragon, là.
Et puis t'as les jetons... Les jetons hérons, pour chaque joueur aussi, qui sont... Bon, c'est peut-être un peu too much par certains moments, mais c'est pour nous mettre dans l'ambiance, parce que bon, c'est japonisant, mais ça pourrait être n'importe quoi, effectivement.
Il faut bien le matériel, parce qu'effectivement, en termes de thématique, sinon...
Ah, c'est japonais, ils ont fait Shinkansen Zero Kai avant, donc ils sont restés un petit peu dans la même région, mais...
La cathédrale rouge, c'était pas le même coin quand même.
Non, effectivement.
Ils sont partis un peu plus à l'est.
Mais ils suivent leur voyage en fait, tu vois, ils étaient plutôt du côté de la Russie, maintenant ils sont au Japon. Peut-être qu'ils vont descendre.
C'est un peu une école à l'italienne, hein, avec l'utilisation des dés comme ça et trouver des moyens de les utiliser. Ou à la Feld aussi a fait sa remarque.
Ouais. On retrouve un petit peu toutes ces inspirations. C'est certainement pour ça que ça nous a plu. C'est on rejoint un petit peu une mécanique de Feld avec placement de dés, ouvriers, salade de points, de la réflexion, moyen quand même de creuser, de la rejouabilité. J'ai fait les guillemets avec les doigts, mais parce que justement.
Interaction aussi, hein, quand même assez forte.
Ouais.
Enfin, assez forte. pour ce temps, genre de jeu, c'est pas de l'affrontement, mais...
Non, non, t'as une bonne interaction sans vraiment être méchant, quoi. Voilà, c'est... Parce que si tu veux bloquer un autre, ben, tu laisses d'autres actions, donc tu peux pas tout faire. Ça, tu peux pas être méchant pour être méchant, quoi. Il y a toujours moyen de se rattraper et puis de faire quelque chose avec ce qu'on a.
Bah, en tout cas, ça a l'air intéressant, tu vois, tu m'as... Ouais.
Bah, j'en entendais du bien et j'avais pas du tout regardé le jeu en soi. J'avais vu effectivement juste l'histoire de D et bon, c'était une bonne pioche. Je pense effectivement qu'il mérite d'être essayé au moins pour voir ce que ça donne. Et je dirais pas à 4, limite 4, c'est peut-être un peu trop parce que t'as quand même pas mal de temps d'attente et tu peux pas regarder, tu peux pas planifier avant parce que les emplacements vont bouger avant que ça revienne à toi, tu pourras vraiment savoir ce que tu veux faire à ton tour. Ça bouge beaucoup, il y a peu d'emplacements quand même, il y a peu de dés, donc voilà, c'est à essayer, je dirais 2 ou 3 personnes maxi.
Ouais, moi je suis curieux effectivement de l'aspect concentré, mais après si c'est nul, au pire il sera sur mon étagère Japon et la couve est jolie.
D'accord, ok. Tu fais ça toi.
Bah ouais, écoute, hein, tant que j'ai un peu de place.
Une étagère Japon, d'accord.
Ok. T'en as une pour plusieurs pays comme ça ou...
J'en ai une Viking, j'en ai une livre avec Nouvelle Contrée et tout. Il n'y a que Nouvelle Contrée dedans. Enfin, ouais. Bon bah écoute, il y a aussi un mode solo. Écoute, si je suis motivé, je vais peut-être essayer ce soir de faire le mode solo. Je vais voir. Je crois qu'il y a un automa, mais je vais peut-être essayer de me mettre à ça ce soir si j'arrive à trouver la motive.
Bah écoute, motive-toi alors. Puis tu me diras ce que ça donnait en,
en mode ça solo. Roule.
Et tu nous feras un soliloque après.
Ça roule. Bon bah écoute, Xeros, bon courage pour trouver des joueurs nés quand même.
Ouais. Bah ouais. Je vais galérer pour ce mois-ci.
Bon, ça roule. Merci en tout cas.
Ouais, bah jouez bien les gars.
Ciao, à la prochaine.
Salut. Salut.